véhicule. Il faut faire attention aussi, c'est pas tomber dans l'extrême où on caricature en disant il faut des véhicules comme la Brinks. Le problème, c'est que nous, on est obligé aussi de faire des interventions rapides. Et on le sait qu'au niveau de ce genre de véhicule, il y a quand même des limites. Donc je pense que oui, il faut trouver un juste milieu sur des véhicules qui soient adaptés à nos missions et de ne pas essayer de copier ce qui se passe ailleurs, d'avoir des véhicules protégés, etc.
Mais c'est un véhicule qui est siglé, par exemple, c'est bizarre. Pourquoi le floquer? Pourquoi ne pas rendre le véhicule anonyme en tout
cas? Là aussi, la question reste assez complexe. On peut avoir les deux penchants. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est siglé, on est identifié. Donc, dans la circulation, dans la circulation, c'est beaucoup plus rapide quand on est identifié. Mais ça a son revers, c'est qu'on est identifié. Et donc, du coup, on est plus exposé.
D'accord, mais par exemple, le péage, là, le véhicule s'était arrêté. D'où l'embuscade. Ils avaient bien organisé leur course.
Oui, il y avait déjà une voie.
À ce moment-là, le véhicule va être arrêté, bloqué. On pourra donc intervenir de face en frappant le fourgon. Et puis, à l'arrière, d'autres hommes vont pouvoir débarquer. Je comprends pas. Il n'y a pas de télépéage. Il n'y a pas un passage prioritaire pour que le fourgon ne soit pas obligé de s'arrêter.
Il y a quand même du télépéage dans nos véhicules. Ouais. Mais inévitablement, quand on est utilisateur de ce boîtier, on le voit,
il faut ralentir
très fortement, et c'est là où elle est la problématique.
Là, c'est un point de faiblesse, quand même.
Ah, mais c'est clairement une faiblesse, et c'est pour ça aussi que quand on parle du siglage, la question doit s'étudier, et on doit faire attention là-dessus, parce que nous, quand on se déplace, on doit éviter au maximum de s'arrêter ou d'être freiné. Voilà.
Est-ce que vous savez si vos collègues ont fait usage de leurs armes ou pas?
Visiblement, oui. Enfin voilà, et c'est là-dessus.
Donc ils ont quand même essayé de répliquer, quoi.
Malgré la faiblesse des armes qu'ils pouvaient avoir et face à ce commando extrêmement armé, on peut voir que jusqu'au bout, ils n'ont pas voulu faillir à leur mission qui était de faire cette escorte. Malheureusement, ils en ont perdu la vie. Mais jusqu'au bout, ils auront combattu.
Alors, Joël.
Oui, moi j'ai une question justement sur... vous disiez qu'ils étaient armés de 9 mm, mais sur la formation aussi. Puisque ça fait pas très longtemps que vous avez cette mission, est-ce que vous avez une formation, parce que j'imagine qu'il faut une certaine formation pour faire face à ce type de... Il faut des armes et une formation. Est-ce que vous avez la formation réellement adéquate pour ce type de transport d'individus qui seraient attaqués?
Alors oui, les personnels qui sont affectés dans ces prêches, donc ces pôles de rattachement d'extraction judiciaire, sont formés donc à l'armement, aux méthodes d'escorte, à la conduite de véhicules façon tactique, etc. La formation est assez complexe. Mais, quoi qu'il arrive, toute personne qui faisait cette mission avec les armes que l'on avait à notre disposition à ce moment-là, quand on voit en face ce qu'il y avait en termes d'armes lourdes, armes de guerre, la riposte, elle a été
autre question
dès le départ.
Visiblement, quand même, c'est une activité qui prend beaucoup de temps, beaucoup de moyens d'extraire les individus, les emmener au tribunal. Pourquoi on ne fait pas l'inverse? Pourquoi le magistrat ne se déplace pas?
Justement, en fait, nous, c'est... Je dois rencontrer cet après-midi le garde des Sceaux, et ça va être justement un des sujets. Vous savez, on a quand même pas mal de problèmes structurels au sein de l'administration pénitentiaire, que ces problèmes peuvent être politiques, mais aussi sur le plan ministériel. On se dit qu'il y a peut-être des solutions à trouver sur les prêches, par exemple sur les extractions notamment. On se pose la question de ce qu'il faut savoir, c'est que quand nous on est à l'extérieur des murs, on est en situation de faiblesse, on est en fragilité. Donc nous ce qu'on souhaiterait c'est qu'effectivement ce soit les magistrats qui viennent en détention. Parce que des fois on fait des escortes avec beaucoup de moyens, juste pour aller faire signer un papier de pension alimentaire pour un détenu, etc. Enfin, pour le coup, ça nous paraît disproportionné par rapport au risque que l'on prend. Mais ce sujet... est valable aussi sur la surpopulation carcérale. La surpopulation carcérale génère un nombre aussi de mouvements qui augmente. Et ce qu'on dit aussi, là où les magistrats aussi ont leur part à jouer, ce qu'il faut savoir, c'est que l'incarcération, la surpopulation, elle est due aux décisions de justice. La décision de justice, elle est faite par un magistrat. On a plusieurs, on a des condamnations qui sont prononcées avec plusieurs aménagements qui peuvent être possibles pour éviter ces incarcérations. Malheureusement, elles sont très peu prononcées. On est malheureusement dans le tout incarcéré. Du coup, on se retrouve avec une surpopulation.
Alors qu'on n'arrête pas de dire que la justice est laxiste. Vous vous dites, on est dans le tout incarcération, quoi.
Mais inévitablement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un nombre de places.
Plus de places.
Oui, mais en dehors de ça.
C'était d'ailleurs la promesse politique d'Emmanuel Macron.
La promesse depuis des dizaines d'années.
Oui, chaque candidat
si on additionne toutes ces places, on aurait le double de places qu'on a actuellement. Oui. Malheureusement, c'est pas le cas. Le code pénal existe. Tout acte est répréhensible. Mais qui prend cette décision? Et en fin de compte, qui est au cœur du système judiciaire? c'est le magistrat. C'est lui qui condamne, c'est lui qui incarcère, c'est lui qui ressort. Et je pense que là-dessus, il y a peut-être aussi tout un travail à faire. Nous, on connaît nos détenus, on connaît leur dangerosité, on connaît leur prise en charge. On est plus à même, je pense, à pouvoir nous décider de ces mesures.
C'est ce qu'on dit aussi. On dit que dans la prison, les portables circulent trop facilement. C'est open bar dans les prisons. Et d'ailleurs, certains magistrats marseillais expliquaient que finalement, le passage au Baumettes, c'était pas si grave parce que le dealer continuait ses activités à l'intérieur de la prison. Ça faisait partie du CV professionnel. À un moment donné, on passe au Baumettes, mais on continue les activités. On peut imaginer même que le Mohamed Amra en question a organisé depuis sa cellule son évasion via un portable.
C'est un fléau, ça. L'enquête le dira, et effectivement, pour éviter ces fléaux, parce que on peut tomber très rapidement dans le stéréotype de la corruption, etc. Il n'y a pas besoin de corruption, hein. Vous savez, les téléphones portables, les stupéfiants rentrent très facilement en prison, de par DG, par les parloirs, etc. Parce qu'il faut rappeler qu'on n'a pas le droit de fouiller de façon systématique les détenus, ça aussi c'est une problématique. Mais moi, j'aime à le rappeler, quand on veut saisir les téléphones portables...
C'est interdit de fouiller systématiquement.
Loi européenne pénitentiaire qui nous interdit la fouille systématique.
Ah bah voilà.
Ça aussi, c'est une problématique.
Ah oui, ça c'est problématique. Je n'ai pas... Non mais vous imaginez la connerie du truc quand même. Un gardien de prison, enfin un agent pénitentiaire, excusez-moi monsieur, n'a pas le droit de fouiller systématiquement un prisonnier en prison. Non mais... À un moment, il faut se mettre des baffes à soi-même ou comment ça. Non, mais c'est un truc de fou. En prison, il n'a pas le droit de le fouiller.
Et inévitablement, ça participe à ce fléau qui se développe de la prolifération des stupéfiants, des téléphones portables. Et d'ailleurs, même en 2018, rappelez-vous ce grand mouvement qu'on avait spécial dans les prisons qui avait malheureusement touché des collègues de Vendin, des collègues de Condé. Par des armes, etc., qui étaient rentrées aussi, comme ça, par l'intermédiaire, soit de projection, de parloir, etc.
Des armes qui rentrent aussi dans la prison.
Ah ben, on peut trouver de tout dans une prison. On trouve de tout dans une prison. Alors, le cas extrême, c'est bien sûr l'arme de poing. Ça arrive, on retrouve certains éléments qui rentrent petit à petit, donc on arrive à les saisir. Et fort heureusement, on peut aussi
saisir... C'est-à-dire que l'arme,
elle est reconstituée petit à petit.
Reconstituée en prison, c'est-à-dire que c'est des pièces qui arrivent une à une, et on arrive à la remonter ensuite, quoi.
Donc... Et puis par les projections aussi, par les projections, vous faites rentrer tout.
Mais normalement, il y a les projections, vous savez, les gardiens sont là pour ramasser. Et...
Oh, vous savez, ça va très 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 vite. Vous
savez, les projections,
les projections par établissement, ça peut être par centaines par jour.
Ah bon ? De l'extérieur, par centaines ?
Mais bien sûr. Donc, ce qu'il faut savoir...
Il n'y a pas de vidéosurveillance ?
Même s'il y a la vidéo, on les voit. Les colis arrivent, ils sont ramassés immédiatement, balancés de partout. Le système carcéral fait que... On essaie de cloisonner les choses, mais quand on cloisonne de trop aussi, on crée de la proximité. Et du coup, quand vous voulez faire circuler des choses en détention, ça circule très très facilement de par les fenêtres, de par les échanges mano à mano. Et comme on le rappelle, on n'a plus le droit à cette fouille systématique.
Mais dans ces cas-là, on peut dire qu'il y a une forme de complicité, parce que les gardiens, ils ferment les yeux, ils s'achètent une paix sociale ou une tranquillité.
Ah ben non, c'est qu'on ne peut pas faire notre mission. On peut pas... Vous imaginez.
Il te dit qu'il y a des mecs en col blanc à Bruxelles qui te disent, parce qu'ils sont très intelligents et que c'est des mecs du terrain, d'accord? C'est des mecs qui touchent 10 à 12 000 euros par mois à Bruxelles, avec classe S et chauffeur intégré. Ils te disent, tu n'as pas le droit de fouiller systématiquement un mec en prison. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Le petit gars qui touche 2000 balles et qui est agent pénitentiaire, il va faire quoi? Il va aller contre la loi pour se faire virer? C'est-à-dire qu'après un détenu, tu sais, le pompon, ça serait qu'un détenu, il vienne et qu'il porte plainte contre lui parce qu'il l'a fouillé systématiquement.
Ça arrive, ça arrive.
Eh ben voilà. Donc c'est pas la faute. Donc s'il te plaît, Olivier, c'est pas la peine de. C'est pas la faute des agents pénitentiaires. C'est la faute des cols blancs, de ces connards qui sont là-haut et qui sont complètement déconnectés de la réalité, tout simplement.
Mais voilà, enfin, nous on le voit, cette problématique de fouille systématique nous est interdite depuis la loi de 2009. Elle nous pose énormément de problèmes. Mais ça reste. Un des champs d'action qu'on doit améliorer. On parlait du recrutement. Bon, bah là, on espère maintenant, avec ce qu'on a pu obtenir et les revalorisations qu'on a eues ces derniers temps, de pouvoir réattirer du monde parce qu'on a du mal à recruter. Ouais. On a des postes qu'on n'arrive pas
à
combler.
Ça a toujours été compliqué de recruter pour la
pénitentiaire. Tout à fait.
Mais il y a une autre question, pardon, mais si on revient.
C'est pas le boulot rêvé, hein, tu sais.
Mais pour revenir.
Ni le salaire.
Tu passes la journée avec des détenus.
Avec des détenus enfermés, tu touches 2000 balles. Donc, tu n'as ni le salaire, ni la motivation, ni l'envie.
Je voudrais revenir sur le scénario. Il y a plusieurs possibilités. Il y a soit, effectivement, il a organisé lui-même son évasion, soit il le percevait pas. Il a été donc extrait de la prison via ce fourgon par des hommes sans le savoir. Peut-être que des hommes qui veulent se venger de quelque chose contre lui. Enfin, tout est possible. Mais on se dit, il y a eu forcément un complice quelque part pour que les hommes soient informés du passage à cette barrière de péage, à cette heure précise, pour pouvoir mettre en place ce guet-apens.
Vous savez, il n'y a pas besoin de complicité pour ça.
Ah, comment on fait alors ?
Il était convoqué par un magistrat. Vous savez, il y a le droit à la défense, il y a le contradictoire. Donc, inévitablement, le détenu devait être au courant de son extraction.
Y compris de l'heure
mais il
à
sait
laquelle
pas où il
sort aussi.
L'heure, on essaye au maximum, mais il y a d'autres canaux qui sont obligatoirement informés. Les avocats,
il connaît le trajet, enfin, il sait précisément par où
Le trajet, vous savez, il n'y en a pas 50 hein, pour aller du TJ jusqu'à l'établissement. D'autant plus, là, c'est l'autoroute hein, pour le coup. Le convoi ne va pas s'amuser à prendre que des nationales ou des départementales. On est obligé d'aller vite. Donc, je pense que ça a été une addition de circonstances qui a permis de faciliter.
Justement, ce sera le prochain volet de la discussion, parce que est-ce qu'il faut développer les visios justement aussi pour éviter aux surveillants pénitentiaires de se mettre en danger. Des questions de Bruno Poncet, de Joël Dagosséry, de Mehdi Ghezza. À tout de suite avec nous Johan Carrar qui représente le syndicat FO Justice, qui a rendez-vous tout à l'heure avec Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux. Et puis on aura Gabriel aussi qui est fonctionnaire de police. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules. Toute la semaine, dès 15h sur RMC, retrouvez l'équipe la plus déjantée de la radio. Avec Éric Dimeco, l'ancien fou.
Voilà. Alors, il y a Dimeco, il y a Charvet, il y a Stephen, il y a Bartoli, il y a Higuain, il y a Pierrot. Venez vous marrer, parler de sport avec nous dans le Super Moscato Show. Voilà, ça c'est efficace et poison de la graine.
Mais Vincent,
il n'y a pas de mais.
Vincent.
Alors à tout à l'heure.
Vincent, t'as oublié l'heure.
Je vais pas faire tout ton travail non plus, feignasse.
Le Super Moscato Show, du lundi au vendredi, 15h-18h, sur RMC.
Ce week-end, à l'Hippodrome d'Auteuil, c'est le Grand Steeplechase de Paris avec RMC. Assistez à la plus spectaculaire des courses d'obstacles de l'année. Prenez vite vos places sur francegallo-live.com. Le Grand Steeplechase de Paris, ce week-end, avec RMC. À chaque obstacle, c'est votre cœur qui bondira.
Pour ne plus rien rater d'RMC,
téléchargez l'appli RMC. RMC.
Les meilleurs moments de la journée, toutes les nuits sur RMC. Rediff.
RMC.
9h midi.
Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story. Nous sommes avec Johan Carrar qui est avec nous. C'est le deuxième volet de la manière dont les grandes gueules abordent la tuerie hier dans l'heure, l'attaque du fourgon pénitentiaire. Le deuxième volet, là, c'est avec justement le représentant des surveillants pénitentiaires. On sera avec les magistrats tout à l'heure à 11h20. Mais on s'interrogeait, est-ce que les magistrats, justement, ne peuvent pas faire de l'interrogatoire en visio avec des détenus comme ce Mohamed Amras? C'est peut-être plus pratique, plus protecteur pour vous.
Alors, le système existe déjà. Sauf que, vous savez, le droit à la défense, le fait que le détenu a le choix de se présenter physiquement devant le magistrat, et ça, pour le coup, c'est une problématique législative. Et c'est ça qu'il faut changer. Parce que le matériel, on l'a. Ça peut s'effectuer quand le détenu et l'avocat sont d'accord. Mais bon, ça reste très marginal parce que vous savez, quand vous êtes enfermé, la seule chose que vous pensez, c'est prendre l'air dehors. Donc, inévitablement, quand vous êtes convoqué par un magistrat, le détenu, systématiquement, je souhaite sortir ou le refuse. Mais après, ça, c'est chacun de son droit. Donc, oui, nous, ce qu'on demande, c'est ce déploiement et cette systématisation de la visioconférence. Après, effectivement, là où on peut se poser la question, c'est dès l'instant où vous avez des gros procès, où vous avez des parties civiles qui attendent. Là, pour le coup, ça peut s'entendre qu'on ait ce déplacement du détenu. Mais il faut trouver des solutions pour qu'au maximum, le détenu ne sorte plus des murs. C'est dans ces endroits que sont les établissements pénitentiaires où on peut garantir la sécurité de nos concitoyens.
Joël et Bruno.
Non, moi je crois que, parce que vous avez évoqué le fait que le juge puisse venir, c'est ça ?
Oui.
Fin de la prison. Je crois qu'on est victime en fait d'une sorte d'élitisme à la française. Moi je vous dis comme je pense. Hein. Je pense que la France, c'est un pays où on se dit il faut que ce soit le détenu qui se déplace. Moi, juge, je n'ai pas à me déplacer. Quand je regarde, alors je sais pas si bon, je regarde encore des séries, mais je vois beaucoup de procureurs, par exemple aux États-Unis, de procureurs ou de juges qui se déplacent au sein des prisons, qui vont faire leurs interrogatoires au sein de la prison, etc. J'en vois pas beaucoup en France. Donc moi, je suis sûre qu'on est victime de notre élitisme et du côté un peu, je suis le juge, c'est le détenu, c'est lui qui vient à moi. Et comment on fait, alors si c'est ça, hein, bah vous me direz, mais si c'est ça, comment on fait pour casser cette mentalité? Parce qu'en fait, c'est toute une mentalité qui est à l'origine de cette façon de fonctionner.
Alors après, il y a plusieurs facteurs aussi, c'est que les services judiciaires, les magistrats, etc., croulent aussi sur les dossiers. Mais à un moment donné, il faut savoir prioriser. On sait que dès l'instant où on sort un détenu d'un établissement pénitentiaire, on est en situation de fragilité. Et donc, il faut pouvoir essayer de trouver des solutions pour qu'on dégage du temps à ces magistrats pour qu'ils puissent venir en détention, bah, déjà voir ce qui s'y passe, etc. Et puis, bah, travailler depuis la détention pour éviter de sortir ces détenus. Ça, c'est déjà une des choses.
Vraiment, dites-moi. Est-ce qu'ils aimeraient
Il faut faire bouger un peu les corps.
C'est des mentalités à changer. Pour le coup, effectivement, il y a beaucoup de mentalités
Bruno
à changer.
Bruno Poncet et ensuite Gabriel, fonctionnaire de police au 32-16.
Tout à l'heure, on a entendu un de vos collègues, en plus, qui était syndiqué chez vous, qui était un gardien de prison en retraite, qui expliquait qu'en fait, une des volontés, à un moment donné, de votre ministère, c'était de mettre des chauffeurs privés avec juste deux de vos collègues qui accompagneraient. Et là, on voit bien quand même cette déliquescence des services publics où à un moment donné, il y a toujours une volonté de faire rentrer le privé. Alors, soi-disant pour faire des économies de personnel, c'est toujours la raison principale. Et là, on se rend bien compte que là, ils arrivent à faire ça. Et bon, vous êtes battu, vous avez repoussé ça. Mais quand on voit que depuis 2019, vous devez faire ce nouveau métier, cette nouvelle fonction, alors qu'avant, c'était des gendarmes et des policiers, et qu'aujourd'hui, tout le monde sait qu'il manque de gendarmes, de policiers partout, on se rend bien compte que la déliquescence qui est orchestrée dans les services publics les plus importants d'un État, ce qu'on appelle les régaliens, aujourd'hui, c'est vous qui payez. Et vous allez payer. Là, aujourd'hui, vous allez voir votre ministre. Il va, comme parce qu'on l'a vu tout à l'heure, enfin, moi, je les aime bien. Moi, je les vois à chaque fois qu'il se passe des trucs graves. Et moi, j'en ai vu. Ils sont toujours en train de pleurer. Et là, quand Dupond-Moretti parle, vous avez l'impression que, oui, battu comme des chiens. Évidemment, c'est ce qu'il faut dire. Sauf que quand il va être en face de vous, il va vous dire quoi? Il va vous dire, bah, vous allez continuer à faire votre travail.
Vous allez le voir tout à l'heure, Éric Dupond.
De toute façon, là,
qu'est-ce que vous allez lui demander?
On va le voir. Là, justement, c'est toutes ces problématiques de structuration qui est à revoir, les niveaux d'escorte, les réorganiser. Parce qu'à un moment donné, on peut pas continuer à travailler. Ce qu'il faut savoir, c'est que la règle pour faire une escorte, c'est deux agents. Alors qu'avant, quand c'était d'autres fonctionnaires qui faisaient cette même mission, ils étaient à trois agents. Donc nous, c'est pas possible. À minima, il faut pouvoir avoir ce qui se faisait avant. Et qui plus est, il faut aussi pouvoir développer nos moyens de défense. Voilà, un 9 mm, effectivement, ne peut pas être suffisant pour faire cette mission. Après, il y a aussi toute cette réorganisation, limiter au maximum ces sorties de détenus. Après, il y a aussi cette question de la surpopulation, parce qu'elle a obligatoirement une répercussion sur ces sorties, oui, parce que derrière, quand vous avez plus de détenus, vous avez plus de sorties. Et là-dessus, également, on a une problématique sur la magistrature, c'est que nous, fonctionnaires d'administration pénitentiaire, on connaît nos détenus. C'est à nous à gérer nos détentions, nos incarcérations, et après de faire de la peine alternative. Il faut arrêter que toutes ces décisions soient prises par une seule et même personne, qui est le magistrat.
Mais vous dépendez du ministère de la Justice.
Oui.
Est-ce qu'il ne faudrait pas vous regrouper avec les policiers, les gendarmes au sein du ministère de l'Intérieur?
Alors, ça, c'est un débat constitutionnel. Pour le coup, je pense que la justice, on a notre place. D'accord. On a notre place pour la simple et bonne raison, c'est que...
Parce qu'on vous demande finalement de faire le rôle que tenaient les policiers avant. Hein. Rappelons, c'est assez récent que ce sont les agents pénitentiaires qui escortent 2019. Les détenus. Avant, c'était les policiers.
Alors attention, c'est ce qu'eux appelaient une mission indue.
Voilà,
une mission indue. Pourquoi plaignait. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand il sortait un détenu écroué et donc sous la garde pénitentiaire.
Voilà,
Mais à l'époque, on n'avait pas, nous, les moyens de le faire. Personnel, etc. On nous l'a imposé. Bon, ça a été une chose, il a fallu faire face. Mais en fin de compte, la prise en charge, une fois que le détenu est écroué, c'est à l'administration à le prendre en charge dans sa globalité.
On est avec Gabriel, donc, qui est fonctionnaire de police. Bonjour, Gabriel.
Oui, bonsoir. Bonjour à vous, les grandes gueules.
Vous vouliez intervenir dans la discussion, pourquoi? Alors, dites-nous, Gabriel.
J'aimerais apporter mon soutien à toute la famille pénitentiaire. Parce qu'autant que nous, ils sont exposés, on l'a bien vu hier. Je vais pas parler de ce qui s'est passé sur le moment, des problèmes de structure, parce que tout le monde les connaît et ils sont visibles. Moi, ce qui me révolte, c'est le comportement de Monsieur Dupond-Moretti, en fait. Voilà, clairement. Donc Monsieur Dupond-Moretti, garde des Sceaux, vient faire la Vierge effarouchée, pleurer à la télé, faire son cinéma, comme il sait si bien le faire, parce que c'est un très grand avocat, faut quand même le rappeler. Mais il faut pas oublier une chose, hein, c'est que Monsieur Dupond-Moretti, il a fait sa fortune en défendant des gens comme Mohamed Amra, depuis très longtemps. Voilà. Mmh. Donc s'il y a des Mohamed Amra, en fait, c'est grâce à Monsieur Dupond-Moretti. Et je trouve ça absolument révoltant aujourd'hui. De l'entendre venir pleurer. Si, je vous le dis. Moi, j'ai travaillé
dans le groupe. Attendez, il les défendait, il les faisait pas. C'est le temps qu'il faut faire.
Oui, mais le problème, c'est que les défendre, vous les faites. Parce qu'en fait, ces gens-là.
Vous êtes contre la défense, donc, en fait.
Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Je ne dis pas que les gens n'ont pas le droit d'être défendus. Sauf que Monsieur Dupond-Moretti, aujourd'hui, qui vient pleurer à la télé.
Il y a un mélange des gens qui vous plaît pas.
Laissez-moi. Bah oui, ça me plaît pas. Comment voulez-vous que ça puisse me plaire? Qu'un avocat viennent prendre la place d'un garde des Sceaux. Lui qui a travaillé uniquement à titre privé, puisque les avocats sont nécessaires, mais il représente un intérêt particulier. Aujourd'hui, il y a un conflit d'intérêts. Il se retrouve ministre en étant avocat.
Non, il n'y a pas de conflit d'intérêts, il n'a pas été l'avocat de Mohamed Amra.
C'est pas ce que je dis, mais il reste malgré tout.
Il était aussi avocat de partie civile, donc il n'est pas forcément. Quand on est avocat, on peut être aussi avocat des victimes.
L'essentiel de son portefeuille, ça a été des gens comme Mohamed Amra. Et je trouve déplacé aujourd'hui de venir faire la veuve à la télé alors qu'on a défendu des gens comme ça. Moi, ça me gêne. Je vous le dis, moi personnellement.
Oui, mais pardon, mais quand on est, je veux pas faire l'avocat du Pont-Moretti, mais quand on est avocat, on ne défend pas le crime, on défend l'individu, on défend le citoyen. Tout le monde a droit à une défense.
Je vous dis pas le contraire. Je n'ai jamais dit le contraire, et je ne remettrai jamais ce droit en question. C'est normal. C'est à nous de bien travailler pour que les avocats ne puissent rien faire. Ça, c'est notre job à nous. Si on travaille bien nous, l'avocat ne pourra rien faire. Voilà. Ça, c'est. Enfin voilà. Si un avocat trouve des failles, c'est parce que nous on a mal travaillé. C'est tout.
Ou parce que après, il y a une vraie inquiétude aussi pour Johan, parce que tout à l'heure, vous allez aller au ministère, et alors qu'aujourd'hui, on n'arrête pas d'entendre qu'il n'y a pas de pognon, il n'y a plus d'argent, on ne peut plus rien donner, qu'on a donné à Thierry Larigot, qu'aujourd'hui, on ne veut plus donner, et qu'en fait, vous allez le voir, vous allez demander des moyens, et malheureusement, des moyens, c'est forcément derrière ces pécuniers. Justement, vous entendez le maire qui dit partout, et dernièrement, on a vu les agriculteurs, on leur a promis des trucs, ils attendent toujours. Moi, j'ai peur, en fait, que, comme ils réagissent toujours dans l'émotionnel, c'est-à-dire que là, il vient d'avoir des morts, vous avez perdu des collègues. Vous avez, enfin, il se passe quelque chose de grave, on va vous dire, attendez, vous inquiétez pas, vous aurez ça, ça, ça. Et moi, j'ai peur quand vous voyez dans 6 mois, vous nous dites, on attend toujours, en fait. Comme les places de prison, vous l'avez dit tout à l'heure, ça reste une chimère depuis des années. Hein.
Alors, je veux pas faire la publicité de Dupond-Moretti, mais ce qu'il faut savoir, c'est que depuis qu'il est arrivé, malgré tout, les budgets du ministère ont augmenté.
Oui,
les budgets de l'administration ont augmenté. Maintenant, après, tout ça est arrivé aussi parce que nous, on a des moyens coercitifs quand même. Quand on parle, vous savez, on est en mouvement là depuis ce matin.
Oui, il y a une journée prison morte, hein,
rappelez-le. Voilà. Hein. Et vous savez, on a des méthodes d'action qui fait que si on veut, on peut embêter très très fortement
la machine judiciaire. Pardon, aujourd'hui prison morte. Concrètement, ça veut dire qu'il n'y a plus d'extraction,
plus de visite, plus rien.
Plus de promenade, plus rien.
Plus d'avocat, plus rien.
Tous les collègues nous suivent, on est pratiquement à 100%
d'action. C'est une journée de colère ou c'est un mouvement qui pourrait durer dans le temps?
Tout dépend de la réunion d'aujourd'hui.
La balle est dans le camp du ministre.
Ouais, mais Gabriel, la réflexion qu'on a et ce que disait votre collègue de la pénitentiaire et vous qui êtes fonctionnaire de police et ce qu'on évoquera tout à l'heure avec Madame la juge Brugère, c'est aujourd'hui, on est quand même face à des hommes, ce commando que l'on a vu en noir, qui tue du policier, qui n'hésite pas à rafaler, tant pis pour les balles perdues, ça a tué des étudiants à Marseille, enfin une étudiante. On est au péage, peu importe les voitures qui passent autour, on rafale. Donc il faut changer de braquet aussi à la pénitentiaire et dans la police aujourd'hui, Gabriel, non?
Alors, dans les deux cas, enfin encore une fois, il y a quelque chose qui me pose un souci dans ce qui s'est passé, c'est que quand on voit le profil de monsieur Mohamed Amra, on a un DPS, si je dis pas de bêtises, je parle là sous le contrôle.
Non, il n'était pas DPS.
Il n'est pas.
D'accord. Parce que c'est une information
qui est particulièrement surveillée.
Voilà. C'est une information qui avait circulé, donc je ne savais pas.
Mais finalement, elle a été démentie, ouais.
D'accord. Parce que je pense que s'il avait été DPS, c'était pas une escorte comme ça qu'il y aurait eu.
Là, c'est une escorte niveau 3, c'est ça?
Oui, d'ailleurs, elle avait été réévaluée. Il était escorte 2, il a été réévalué escorte 3 assez récemment. Et après, effectivement, le niveau au-dessus, il y aurait eu l'appui des FSI.
Alors, allez-y, Gabriel, sur la réflexion.
Bon, après, effectivement, moi, je rejoins mes collègues de la pénitentiaire. On manque de moyens à tous les niveaux. On manque d'hommes. Même si effectivement, et là je vais le rejoindre aussi par rapport à ce qu'a fait Monsieur Dupond-Moretti, effectivement il a augmenté les budgets. On a eu une augmentation de budget, on a eu du matériel, mais le matériel c'est bien. Faut-il encore que un, il soit adapté aux missions, ça c'est la première chose. Nous on commence enfin à avoir du matériel adapté aux missions. Néanmoins on n'est toujours pas assez. Et après derrière, il y a une. Là on se plaint de la surpopulation carcérale. Bah il y a pas assez de place. Sauf que vous avez une augmentation globale des délits, mais vous avez pas de peine de prison qui suivent en fait ces délits depuis 25 ans maintenant. Je vais parler d'un autre sujet, mais les vols à main armée sont recaractérisés en vol sous la menace d'une arme. Enfin, en vol avec violence, en fait. Donc, ouais. Vous avez une dépénalisation, en fait, des crimes pour les juger plus vite. Mais du coup, vous n'avez pas les sanctions qui vont avec, puisque les peines ne sont pas les mêmes. Ça, c'est aussi un point important. Il y a aussi une volonté politique de vouloir restaurer la sécurité dans ce pays. Et là, je vais rejoindre Monsieur Vallet. Il y a une déliquescence de cette volonté politique. On ne met pas les moyens là où il faut. Regardez, je vais prendre un exemple simple. L'été dernier, les émeutes contre Noël, on nous a dit « Allez-y, ramenez l'ordre ». On l'a fait. Derrière, j'ai tout un tas de collègues qui sont retrouvés à l'IGPN pour des usages dits de force abusive.
Il y a beaucoup de contradictions, effectivement. On vous demande d'intervenir. On le reproche aussi. Ouais.
Gabriel, je vous remercie de ce témoignage. Fonctionnaire de police, merci d'avoir été avec nous. Ce sera un volet qu'on abordera tout à l'heure, donc, avec la magistrate Béatrice Brugère. Merci, Johan Carrard, secrétaire national adjoint du syndicat FO Justice. Et donc, on va suivre la rencontre que vous aurez tout à l'heure à 14h. Au ministère de la Justice, place Vendôme, avec Éric Dupond-Moretti. Ouais. Merci, Johan Carrard. Dans un instant, Bruno Poncé, Joël Dagosséry, Mehdi Guézard, suite des jugés, suite des grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story.
RMC, jusqu'à midi,
les grandes gueules.
Tous les matins, dès 5h, RMC vous réveille en douceur ou accompagne la fin de votre nuit.
C'est Charles Matin.
De l'économie, du sport, du rire et bien sûr toute l'actualité.
À vos réveils, RMC Charles Matin, du lundi au vendredi, de 5h à 6h30.
Tous les jours dès 6h, Charles Matin est aussi à la télé sur RMC Story, canal 23 de la TNT. RMC partout, RMC tout le temps.
En podcast sur rmc.fr et sur l'appli RMC.
RMC Escrime. De demain à dimanche, c'est le Challenge Monal. La Coupe du Monde d'épée hommes accueille les stars mondiales de l'escrime à Saint-Maur-des-Fossés. Encouragez le champion olympique Romain Canon et ses partenaires de l'équipe de France pour la dernière épreuve sélective avant les Jeux Olympiques. Info et résa sur ffescrime.fr. Le Challenge Monal. De demain à dimanche avec RMC.
RMC.
Et vous, quel est votre lien avec RMC ?
RMC, c'est une radio où tout le monde peut échanger. On écoute tout le monde, en fait. Voilà. Ça me permet vraiment sincèrement d'évoluer. Et RMC, il n'y a que RMC qui propose ça.
Vous écoutez RMC, RMC vous écoute. Le standard RMC vous attend au 32-16.
RMC, bien plus qu'une radio.
Pas le temps d'écouter la radio aujourd'hui ? Sur RMC.
Sur RMC. Vous avez toute la nuit.
Rediff, RMC.
9h midi.
Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC et RMC Story. On parlera de la situation en Nouvelle-Calédonie tout à l'heure à 11h. On sera en direct avec Nouméa, avec un de nos compatriotes qui vit là-bas. Mais justement, si vous-même avez de la famille là-bas, si vous connaissez bien la Nouvelle-Calédonie, venez en parler. Il y a un conseil de défense sur la Nouvelle-Calédonie à l'Élysée. La situation est gravissime.
Ah non, mais c'est effrayant ce qui se passe. C'est-à-dire
trois morts.
C'est loin la Nouvelle-Calédonie. Donc j'ai l'impression que la classe politique, par exemple, n'a pas l'air vraiment de réaliser ce qui se passe. Mais c'est effrayant. Ce sont des scènes de guerre civile. Les témoignages sont saisissants. C'est-à-dire que les gens ont peur pour leur vie. Donc ils protègent leur maison, leurs biens avec des fusils. Alors il paraît qu'il y a un Calédonien sur deux qui a une arme. Il paraît que les armes viennent de Chine aussi. Il y a tout un trafic. Ouais. Bref, il y a une situation qui est insurrectionnelle.
En parlera tout à l'heure avec vous au 32-16. En attendant, on va évoquer, pour le bonheur de Bruno Poncé, de Mehdi Guézard et de Joël Dagosséry, on va évoquer les fast-foods.
RMC, les grandes gueules.
Pourquoi ? Parce que l'inflation, la hausse des prix, la hausse de l'énergie, la hausse de la matière première a un impact sur le prix des fast-foods, que ce soit les grandes enseignes comme McDonald's ou les kebabs. Et du coup, aujourd'hui, c'est presque devenu un repas de luxe, le fast-food.
Oui, alors que par définition, aller chez McDo, c'était manger pour pas cher. C'était de la nourriture bon marché. Et même chez McDonald's, on a augmenté les prix, 2,7% d'augmentation au cours des trois dernières années. Et puis, c'est vrai qu'il y a eu la mode aussi du burger un peu de luxe, des chaînes de burgers qui se sont développées. Et tu t'en tires avec 15 euros, t'as un burger, une frite, une boisson. C'est quasiment aussi cher que si t'allais dans un restaurant traditionnel. Les prix du kebab également explosent. Alors, on nous dit que c'est l'inflation, que le produit, les prix des matières premières aussi ont explosé. Par exemple, l'huile de tournesol avec la guerre en Ukraine a flambé, etc. Est-ce que c'est justifié? Est-ce que les fast-foods vont devenir finalement là, des repas de luxe?
On est au-delà des 10 euros,
là, l'huile de tournesol a baissé. Comment on fait? On rebaisse les prix? Allô, McDo, on rebaisse.
Moi, j'en ai, par contre, j'ai les tournesols sur mon balcon, j'en ai, moi. Je vais peut-être faire de l'or avec ça.
Mais même dans. On a dit à un moment que c'était à cause de l'huile de tournesol par rapport aux fritures. Aux
Après, c'était le blé aussi.
Voilà,
ça, c'est vrai que
le blé par rapport au pain. D'accord, mais tout a baissé. Depuis 9 mois, tout a baissé. Mais je sais pas, ils sont très prompts à augmenter les prix dès qu'il y a une augmentation. Mais quand il y a une baisse, il n'y a pas de. Mais à un moment, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? Pourquoi ils baissent pas les prix alors? Ah bah ouais, bah c'est plus malin maintenant, bah ils ont mis le prix haut.
Tu voyais sur les réseaux sociaux.
Et t'as les moutons, les dindons qui continuent à acheter chez
Alors
eux,
je sais pas, venez nous en parler au 32-16, mais je voyais sur les réseaux sociaux comme quoi la viande était dans certains endroits un peu plus petite.
Oui.
Où les frites, on en mettait moins, quoi. Joël Dagosséry.
Ils sont ratatinés, les Big Mac et consorts. Enfin, avant, t'avais un sandwich qui était quand même... voilà, ça tenait bien dans la main.
La matière.
Voilà, là, c'est plus trop ça. Après, moi, je m'étonne toujours quand on me dit que les fast-foods, c'était pas cher. J'ai toujours eu l'impression, en tout cas, quand même quand j'étais jeune, que tout le monde n'allait pas chez McDo. C'est bizarre, moi, j'entends que McDo, avant, c'était hyper accessible, que tout le monde pouvait y aller. Non, toutes les familles ne pouvaient pas se payer un McDo. Moi, je n'y allais jamais, par exemple, quand on était enfant. J'ai commencé à aller chez McDo grâce au ticket restaurant, aussi parce que j'y ai travaillé quand j'étais étudiante. Donc avec les tickets restaurants, tu le sens un peu moins, c'est vrai. Là, je les ai plus et je le sens. Enfin, je le sens. C'est si on y va à 3, on est presque à 40 euros. Enfin, facilement.
Joël, moi, facilement. À la rigueur, avec le McDo, c'est aussi le prix des kebabs. Je sais pas si vous avez remarqué,
les kebabs.
Ça, c'est un drame, par contre.
Mais
franchement, ils ont pris, honnêtement.
Bah alors.
Mais parce que 3 ans, 4 ans, ils ont dû prendre
30 à 40 euros. Et comment tu l'expliques?
Mais c'est la gentrification.
Mais est-ce que ça a augmenté autant que le kebab a augmenté? Moi, ça, c'est un kebab à l'époque, les gars, il y a quoi? Il y a même pas.
C'était 5 balles.
Allez, 10 ans de ça, on payait 5 euros, on avait frites et boissons. Frites et boissons. Il n'y a pas de kebab en dessous de 11, 12, 13 euros maintenant. Ça n'existe pas, tu peux pas me dire que ça a pris.
Mais parce que c'est à la mode.
C'est pas possible, ça n'a pas pris le double en 10 ans.
Et pourtant, le kebab, c'est à la mode, il y en a partout maintenant.
Si, et même, si quelque chose qui est hyper populaire est rattrapé par l'industrie, je vais pas dire du luxe, mais en tout cas de la très bonne bouffe, etc., ça fait monter les prix. C'est comme ça c'était des trucs de quartier. Le kebab, il y en a un à chaque coin de rue. Voilà,
dans des bons restaurants, on te sert
du kebab, etc.
Comme le burger,
c'est ce qu'on appelle la gentrification, tout simplement. Tout ce qui est rattrapé par la culture, par des choses un peu plus haut niveau.
Et donc, comme ça a été rattrapé, ceux qui maintenant étaient à la base ont décidé de monter les prix aussi. Mais ça
regarde la clientèle. Moi, j'allais dans les kebabs dans le début. On était tous entre mecs et nanas du quartier, etc. Aujourd'hui, t'as les gens des bureaux qui sortent à 13h, qui vont au kebab. En fait, la population dans les kebabs, elle a énormément évolué. Il y a une mixité.
Et c'est ça qui fait monter les prix,
bah, bien sûr, puisque avant, c'était vu comme de la malbouffe ou de la bouffe de quartier, etc. Maintenant, ça s'est développé, c'est une autre image.
Moi, je connais
plus
de kebab en dessous de 11, 12 euros. Je n'en connais pas. Et pourtant,
donc toutes ces enseignes qui étaient pour les petits revenus, les petits porte-monnaies,
c'est fini.
Maintenant c'est fini.
C'était des repas bon marché.
C'était
les repas des jeunes, des étudiants.
Maintenant, les gens qui n'ont pas les moyens.
Et pourtant, je crois qu'on revenait au repas à 5 euros, au kebab à 5 euros.
Les gens qui n'ont pas les moyens, et malheureusement, il y en a de plus en plus, d'accord. Maintenant, ils ont deux solutions qui sont très graves. La première, c'est un, de ramener de chez eux, de faire l'ancien système de la gamelle. Ou alors directement, de ne pas manger. Il y a des gens qui ne mangent pas à midi. C'est ça qu'on est devenu. On est en train de se paupériser. C'est horrible. Il y a des gens qui ne déjeunent pas à midi parce que, et regardez juste la gueule des restaurateurs qui font tous la gueule. Tous les restaurants font la gueule à midi parce que le chiffre d'affaires a baissé de 30 à 40%.
Ouais, mais... Il travaille aussi.
Ouais, mais regarde, mais, pas, mais je te jure que les gens qui venaient à l'époque avec un ticket moyen de 15-20 euros, ben, ils n'ont plus ce ticket moyen. Ils se disent, je vais pas rentrer dans le restaurant avec 10 euros pour acheter, pour prendre une frite et une bouteille d'eau. Enfin, ou,
non, mais il y a un sujet aussi. Avant, moi, j'ai travaillé. Tu travaillais sur la route à une époque et en fait tu avais le menu ouvrier. C'est-à-dire que t'allais dans des routiers ou dans des restaurants, tu avais le menu ouvrier et t'étais en dessous de 10 balles. Aujourd'hui, le menu ouvrier, t'es pas en dessous de 15 et même t'es au-dessus de entre 15 et 20.
C'est ça.
Et sauf que ton ticket restaurant, on te fait un ticket à 9 balles, donc déjà tu peux pas le payer.
Je suis d'accord.
Et puis deuxièmement, en fait, aujourd'hui, t'as plus de menu ouvrier. Moi j'étais en Espagne c'était 2013 ou 2014. En fait, il y avait encore des menus ouvriers. Moi j'étais à Fuengirola, c'est. Juste à côté de Malaga. Et en fait, t'avais des menus ouvriers et t'étais à 6-7 balles, tu vois. Et nous, en France, ça, pour trouver un truc à 6-7 balles, mais même à McDo, même si tu prends un menu, t'es fini.
On va en parler avec Nina, qui est dans les Landes. Bonjour. Nina, voilà. Je viens vers vous dans un instant. Le temps pour moi de vous dire que vous avez maintenant 5 minutes, il est 11h-10, 5 minutes pour envoyer roue par SMS au 732-16. C'est le retour de la RMC, la roue multicash. Donc vous envoyez roue par SMS au 732-16, vous êtes avec nous tout à l'heure à 11h20, vous ferez tourner la roue et vous verrez, on va mettre un petit peu de suspense quand même tout à l'heure, mais vous ferez tourner la roue pour gagner jusqu'à 20 000 euros. Allez, vous vous inscrivez, vous avez 5 minutes à vous de jouer, à vous de gagner, j'espère que vous pourrez empocher ces 20 000 euros. Aujourd'hui la roue tourne dans les GG, dans les grandes gueules, et c'est l'innocente Anaïs Sainz qui viendra d'un geste gracieux faire tourner la roue.
Est-ce que, comme le philosophe Ribéry disait, la roue tourne va tourner?
Écoute, il faut qu'elle tourne au moins 3 fois pour que ce soit validé, la roue tourne qui doit tourner.
C'est pas loin.
Donc, on fera ça tout à l'heure à 11h20. On revient à notre discussion sur les kebabs, l'inflation, les kebabs, les fast-food, les burgers. Est-ce que l'inflation fait qu'aujourd'hui, ces enseignes qui permettaient de manger à petit prix sont presque devenues trop chères? Nina, bonjour.
Oui, bonjour les GG.
Bonjour, qu'est-ce que vous en dites, vous, Nina, alors? Est-ce que vous trouvez que ça devient hors de prix ou pas, les fast-food?
En tant qu'acheteuse, du coup, moi, je fais une veille concurrentielle de tous les prix qui sont pratiqués sur plein de...
Veille concurrentielle du fast-food? Ah oui, quand même.
Des fast-food, mais de la restauration et des ingrédients en général. Et du coup, on se rend compte de deux phénomènes. C'est-à-dire qu'ils ont adapté leur offre. Sur les gammes classiques, on a eu une importante hausse. Et à côté de ça, tous les fast-food ont lancé une gamme abordable aux alentours de 5 euros parce que c'est ce qu'on appelle un prix psychologiquement abordable. On passe pas ce cap-là de 5 euros comme sur les produits de grande consommation, 3 euros.
5 euros, vous avez quoi? Vous avez le burger, c'est tout?
Non, vous avez deux sandwichs. Ah bon? Ouais, vous avez deux, par exemple, deux cheeseburgers avec une petite boisson et des frites. Alors, ils proposent les produits sur lesquels ils ont les meilleures marges, c'est-à-dire que une barquette de frites, si on n'est pas sur des frites un peu de luxe, machin et tout, ça va être rentabilisé assez rapidement. La boisson, c'est pareil, donc c'est sur leurs produits à fort potentiel de marge où ils vont proposer ces gammes-là, mais ils vont communiquer de manière modérée, c'est-à-dire qu'on va aller cibler des jeunes qui sortent de l'école, qui n'ont pas un fort potentiel acquisitif. On va aller chercher des gens qui n'ont pas de gros moyens mais qui ont envie de faire plaisir à leurs proches et qui ont envie de se dire quand même, bah, j'ai quand même cette image de marque-là, je peux emmener mes enfants, je peux emmener ma famille sur ça. Mais parallèlement, si vous prenez le prix d'achat du sandwich tout seul ou le prix de la glace toute seule, ou vraiment, vous allez voir que ces prix-là ont doublé et les menus, on va dire un peu plus premium, eux ont doublé. Donc le fast-food ne perd pas d'argent parce qu'il fait des volumes tellement monstres en achetant les pommes de terre.
Est-ce que vous trouvez que, là je lisais ça sur les réseaux sociaux, alors vrai ou pas, est-ce que les quantités ont diminué, Nina, ou pas?
Oui, si vous... mais même selon les pays, hein, parce que bon, moi je suis dans les Landes, je suis à la frontière espagnole, donc je vois, on parlait des menus ouvriers, alors Bruno, on en a encore à 13 euros hein, du côté espagnol, donc ça a augmenté, mais on en trouve encore.
Aussi,
ouais. Mais la quantité, même selon le pays, c'est pas du tout la même, parce qu'il y a des charges patronales qui sont pas pareilles, parce que prix du logement, de la structure, on va dire, immobilière, sont pas les mêmes, mais effectivement, si vous pesez deux sandwichs ou deux barquettes de frites maintenant, on va pas être sur la même dose. La boisson, la proportion d'eau et la proportion de sirop. Quand vous prenez, enfin, je sais pas, on a tous le souvenir d'un soda à l'époque et un soda maintenant à McDo, ça n'a pas
le même goût. Alors, Nina, puisque vous êtes vous-même, vous êtes dans la veille, on nous dit.
Ah bah, c'est moi spécialiste.
Non, mais, oui, bien sûr.
Surtout, je compare tout. Non,
vous êtes une acheteuse, vous êtes une spécialiste.
C'est ça, donc c'est votre métier. Mais Adrien est avec nous de Haute-Garonne. Bonjour, Adrien.
Bonjour.
Bonjour. Est-ce que ça a augmenté ou pas alors?
Et oui, moi j'ai le même constat que Nina, les prix ont augmenté et la quantité elle diminue. Il y a une dizaine d'années, je consommais pas mal de McDo en étant ouvrier sur les chantiers, donc le midi j'y mangeais régulièrement. Et j'ai le souvenir que pour 12-13 euros, je mangeais mon menu avec des petits compléments à côté. Et les rares fois où j'y vais aujourd'hui, parce que je ne fréquente plus du tout le McDo, les rares fois où j'y vais, à savoir 2-3 fois par an, le constat est le suivant, c'est que j'en ai pour, à équivalence de consommation, j'en ai pour une vingtaine d'euros, si ce n'est plus.
Ah ouais.
Et à chaque fois que j'ouvre la boîte, je me fais toujours cette réflexion que je partage avec la personne avec qui je suis au McDo, et je me dis, mais l'hamburger a diminué. Enfin, le Big Mac, avant, me prenait la main de manière assez copieuse et généreuse, et aujourd'hui un Big Mac c'est un petit sandwich quoi.
Ouais, enfin, ouais, en plus vous dépensez plus parce qu'une vingtaine d'euros c'est énorme pour aller dans un fast food, et en plus on a faim quoi, on sort et une heure après on a faim quoi.
Ouais, c'est ce qu'on appelle
ça, tout à fait. Et ce qui me surprend c'est ce prix qui augmente, cette quantité qui diminue.
Est-ce qu'il y a moins cher aujourd'hui? Est-ce que vous avez fait une étude de marché? Est-ce qu'il y a moins cher que McDo? Est-ce qu'il y a des, parce que
je sais pas, les kebabs,
certains pourraient se positionner.
Alors les kebabs, je les fréquente pas, mais les fois où je vais dans des indépendants qui ouvrent des petits burgers, on a des quantités plus grosses, de la qualité pour certains en tout cas, qui jouent le jeu de jouer la qualité de la viande, des produits locaux et de proximité. Et on pourra payer peut-être moins cher ou sensiblement le même prix, mais pour des quantités un peu plus conséquentes et une meilleure qualité selon moi.
Merci Adrien, merci de votre expérience.
Avec Joël,
vous voulez ajouter quelque chose? Je suis d'accord, parce que moi j'ai testé par exemple un burger en restaurant avec t'as toujours les frites qui sont servies avec et tout. Ça te fait quoi, 15, peut-être 17? Et t'as pour le coup, t'as un vrai burger avec une vraie viande, et c'est pas ce que tu retrouves.
Pour une boisson.
Oui, c'est sûr, mais quelque part, t'as l'impression quand même d'en avoir pour ton argent. Voilà.
Après, ce qui doit pouvoir encore être à peu près dans des tarots raisonnables, c'est peut-être un jambon beurre, un truc comme ça.
Et ouais, c'est vrai, j'ai des formules.
Une barre de flan et puis une bouteille de flotte.
En général, c'est du 12 balles, 15 balles.
C'est plus cher, ça aussi.
10-12 formules en boulangerie. Mais aussi, ils ont répercuté.
Oui, c'est vrai.
Avant, c'était 10, t'en avais même à 8.
Ouais, t'es à 15 maintenant.
Et maintenant, t'es à 15.
Merci, merci.
15 euros pour un sandwich avec une baguette,
une boisson et un dessert. Merci à Nina et à Adrien. Merci à vous deux. Merci d'avoir discuté avec les GG. Bonne journée à Nina, bonne journée Adrien.
Merci, au revoir.
Merci Adrien.
Dans un instant, t'as raison, ça ouvre l'appétit. Dans un instant, la Nouvelle-Calédonie. Ça interpelle les GG, ça interpelle les grandes gueules. Je suis sûr que vous qui nous écoutez, vous avez de la famille là-bas. Vous vivez peut-être d'ailleurs entre la métropole et la Nouvelle-Calédonie. On sera avec un compatriote qui vit à Nouméa et avec qui on a échangé ce matin et qui est terrifié lui aussi par la situation sur place. Si c'est la guerre civile, il ne faut pas que la métropole nous oublie aussi. Voilà. Donc venez en discuter avec les grandes gueules au 32-5.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules. Tous les matins, réveillez-vous avec RMC.
À 4h30, votre premier journal. 5h, 6h30, Charles Matin.
6h30, 9h, Apolline Matin et le face-à-face à 8h30 avec un invité qui fait l'actualité. RMC, le matin.
Le réflexe info.
Ce week-end, à l'Hippodrome d'Auteuil, c'est le Grand Steeplechase de Paris avec RMC. Assistez à la plus spectaculaire des courses d'obstacles de l'année. Prenez vite vos places sur francegallo-live.com. Le Grand Steeplechase de Paris, ce week-end avec RMC. À chaque obstacle, c'est votre cœur qui bondira.
Ok Google, mais RMC.
Ok.
RMC est disponible sur toutes vos enceintes connectées. RMC, partout, tout le temps. RMC, Rotten sans flamme.
Salut, c'est Jérôme Rotten. Cette semaine, dans Rotten sans flamme, on fait le grand jugement de la saison du Paris Saint-Germain. Et croyez-moi, ils vont tous y passer. Ne ratez surtout pas ça, ce sera tous les soirs à 18h30 sur RMC. Et ce soir, on fait le procès de Gigio Donnarumma.
Trop pressé aujourd'hui ?
Sur RMC, vous avez toute la nuit.
Rediff.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec aujourd'hui notre trio Joël Dagosséry, coach de vie, Bruno Poncet, cheminot et syndicaliste, et puis Mehdi Guézard, patron de PME. On va s'intéresser maintenant, en attendant de recevoir la magistrate Béatrice Brugère dans 20 minutes, en attendant de tourner la roue et j'espère vous faire gagner 20 000 euros, on va s'intéresser à la situation en Nouvelle-Calédonie.
RMC, les grandes gueules.
Il y a trois morts en Nouvelle-Calédonie. Trois morts après la deuxième nuit d'émeutes, essentiellement concentrée sur Nouméa. Alors, il y a les émeutes au moment où les députés s'intéressaient à la révision constitutionnelle du corps électoral. Et c'est ce qui a provoqué la colère, les émeutes qui sont visiblement attisées par les indépendantistes.
Oui, le couvre-feu n'a servi à rien puisque les scènes qui sont décrites sont quand même des scènes de guerre civile. On parle de maisons incendiées, de magasins pillés, d'entreprises totalement ravagées. On parle aussi de deux morts. Peut-être l'un des deux morts, c'est quelqu'un qui aurait tiré pour simplement se défendre. On parle aussi de tirs à balles réelles sur les forces de l'ordre. La situation est hors contrôle. Alors, bien sûr, Emmanuel Macron réagit, convoque un conseil de défense. On verra si des mesures sont prises. Peut-être l'envoi de l'armée, peut-être au-delà du couvre-feu, l'état d'urgence. Et c'est vrai que tu l'as dit, parallèlement, eh bien, le processus de la révision du corps électoral se poursuit, puisqu'à l'Assemblée, ils ont voté pour. Il faut expliquer simplement de quoi il s'agit. C'est-à-dire que le corps électoral n'avait pas bougé depuis des années. C'était des accords qui avaient été passés avec les indépendantistes. Or, il y a des gens qui se sont installés en Nouvelle-Calédonie qui ne peuvent pas voter. Ce qui est d'ailleurs contraire à ce qui se passe en France, hein, puisqu'en France, vous avez le droit de voter si vous êtes là depuis 10 ans, etc. Bon, là, ce n'était pas possible. Donc, on ouvre le corps électoral et forcément, les indépendantistes pensent qu'ils vont être moins nombreux et vont perdre de l'influence. Je rappelle quand même qu'il y a eu trois référendums d'autodétermination et à chaque fois, les habitants de Nouvelle-Calédonie ont décidé de rester français.
Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Joël, Bruno, Mehdi, Bruno ?
Déjà, les scènes qu'on voit sont d'une rare violence. C'est inquiétant parce que moi, ce matin, je regardais des infos. T'apprends qu'il y a 100 000 armes en Nouvelle-Calédonie. C'est quand même pas un territoire si grand que ça.
Venu de Chine, souvent.
Ouais, tu commences déjà à te flipper. Après, on peut comprendre. Alors, ne parle juste que de la colère des gens qui sont là-bas depuis tellement d'années qu'à un moment donné, on est en train de leur dire que, bah oui, avant, ils avaient quand même le pouvoir de décider parce qu'ils avaient... Ils avaient ce gel électoral qui faisait qu'en fait, quand les listes étaient bloquées pour qu'ils gardent un petit peu la main. Effectivement, maintenant, je crois que j'ai vu qu'il y avait plus que 41% de Kanak, enfin, des gens originaires. Donc, effectivement, à 41%, t'es plus de la moitié, donc tu vas te faire retourner vite fait. Donc, mais là, les scènes qu'on voit, c'est fou parce qu'ils brûlent tout, ils cassent tout. Et en fait, si ça commence à tirer à balles réelles, je sais pas comment ils vont arrêter. Mais par contre, moi, ce que je vois aussi, c'est que actuellement, dans toutes les territoires d'outre-mer, les départements d'outre-mer, il y a le feu. Il y a le feu partout. La Guadeloupe, il y a le feu. Il y a le feu à Mayotte, il y a le feu. Donc moi, je sais pas si aujourd'hui c'est une conséquence d'une politique de Macron, des politiques d'avant. Là, on peut parler des années 80. Nous, moi, j'ai grandi avec les informations qui parlaient de la Nouvelle-Calédonie tous les jours, avant, avec la grotte de Pascua et compagnie.
Il y a eu les accords de Matignon, les accords d'Ouvéa. Les accords d'Ouvéa, c'était comment s'appelle, Lionel Jospin. Les accords de Matignon, c'est Michel Rocard. Et on a référendé des référendums.
Ouais. Mais moi,
les référendums ont toujours donné le même résultat.
Ce que je vois quand même, c'est qu'il y a le feu dans tout le territoire.
Qu'est-ce qu'on fait ? On envoie l'armée ?
Non, peut-être qu'à un moment, il faudra peut-être pour établir l'ordre, mais pour rejoindre ce que dit Bruno, ce que j'observe, c'est effectivement c'est qu'il y a le feu dans quasiment tous les territoires d'outre-mer, ce qu'on appelle les territoires d'outre-mer qui sont en fait d'anciennes colonies. Et pourquoi je parle d'anciennes colonies ? Parce que justement, ce qui se passe avec les indépendantistes, c'est qu'ils ne veulent pas affaiblir, entre guillemets, le pouvoir des autochtones, donc c'est-à-dire des Kanaks. Et le fait de réformer le corps électoral les fait passer en minorité, effectivement. Et ça peut être vu, et il faut l'entendre, comme une France qui se comporterait encore comme une sorte de puissance coloniale et qui viendrait, entre guillemets, affaiblir le pouvoir des populations qui sont autochtones sur ces territoires. Et ça, il faudrait peut-être qu'on se pose la question si est-ce qu'on a encore les moyens de cette politique ? Est-ce qu'on a encore les moyens d'entretenir des territoires outre-mer. Quand tu vois que
il y a pas d'eau.
Je donne un autre
exemple. Voilà. Ouais. Imaginons quelqu'un qui arrive en France, ouais. qui paye, c'est fou, qui travaille depuis 10 ou 15 ans, qui paye ses impôts, etc. Mmh. Et tu dirais, ah non, t'as pas le droit de voter parce que vous comprenez, vous allez changer le corps électoral autochtone de la France.
On appelle ça le grand remplacement.
On appelle ça du racisme.
Non, non, le grand
remplacement. C'est normal. Enfin, pardon. Ça ne tient pas.
Il y a une histoire, Olivier.
Non, mais ce qu'on avait cédé. Pour acheter la paix.
Il y a une histoire quand tu parles de personnes. Moi, je ne veux pas aller vraiment sur ce terrain-là, mais puisque tu veux parler de personnes qui arrivent sur un territoire et qui voudraient et dont on refuserait dont on leur refuserait des droits. Excuse-moi.
C'est ça qui se passe.
Oui, mais c'est aussi ce qui s'est passé. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont arrivés sur un territoire en Nouvelle-Calédonie. C'est une ancienne colonie, Olivier. Mmh. On est bien d'accord.
Il y a eu des référendums.
Oui, mais non, mais on parle d'une ancienne colonie.
Ces référendums d'accord. Avec le correcteur actuel, l'indépendance.
Oui, mais d'accord.
L'indépendance.
Non, mais
il y a deux choses. Joël, là, on est en train d'aller dans tous les sens. Et en fait, il faut juste aller à une chose qui est très concrète. La première des choses qui est très concrète, c'est qu'il y a plus d'engouement médiatique. Et je te le dis, Joël, il y a plus d'engouement médiatique en 2024 pour une gamine de 15 ans qui porte le hijab que pour deux ou trois morts en Nouvelle-Calédonie en direct. Ça, c'est la première des choses qui, moi, me choque. D'accord ? La deuxième des choses qui me choque, c'est que tout le monde est en train de faire, tout le monde est en train de se cacher en quelque sorte, ou se fermer les oreilles ou se cacher les yeux pour ne pas voir une ingérence étrangère à outrance dans ce qui se passe. D'accord ? Parce que ces mecs-là, qui sont en train d'attaquer des gendarmes avec des armes.
Ils sont armés par qui ?
Ils sont armés par questions. Qui ? Comment ? C'est des îles. C'est pas possible. C'est pas les canards qui fabriquent des armes. Voilà. Je suis désolé. C'est une ingérence étrangère.
Déstabilisation. Alors.
C'est une déstabilisation étrangère massive. Mmh. D'accord. Et on commence par des endroits comme ça, un peu isolés, à droite, à gauche, pour toucher la République française. Il faut se dire les choses.
D'accord. Et c'est toujours.
Et moi, je te le dis, la Chine y en est pour une grande partie. Vraiment. La Russie en est pour une grande partie. Mais excuse-moi, Joël. Ce que je trouve choquant, Joël, je te le dis, c'est que on n'ose pas le dire à la télé. C'est que tout le monde est un peu, tu sais, tout le monde est un peu sur le frein à main, tout le monde a un peu peur. Mais par contre, une gamine avec un hijab de 15 ans qui l'a pas voulu l'enlever, là, ça va faire les titres des télés pendant 5 jours. Là, il y a 3 morts en 2 nuits en Calédonie.
Mais on peut tout à fait.
Personne n'en parle.
Moi, je veux bien croire qu'il y a de l'ingérence étrangère. Par contre, t'as remarqué.
On n'en parle pas assez. Merci, Olivier.
Ça tape sur les points faibles de la France. Pourquoi est-ce que ça tape sur ce type de territoire? Pourquoi est-ce que ça fonctionne sur ce type de territoire?
Il y a des émeutes chez nous. En métropole l'été dernier.
Toujours donc des territoires qui sont sous-dotés. Toujours des territoires qui sont sous-dotés économiquement. Excuse-moi.
Les émeutiers sont les victimes.
Non mais je ne dis pas que les
émeutiers. Tu ne peux pas dire ça.
Mais vous êtes grave. Vous remarquez pas le point commun.
Vous avez commencé vos interventions.
Vous remarquez pas le point commun entre ce qui s'est passé, donc par exemple ce qui se passe régulièrement donc en France sur la métropole, et ce qui se passe dans ces territoires. Mayotte, c'était pareil, on a dû envoyer des opérations spéciales. Ce sont toujours des territoires qui sont économiquement défavorisés, économiquement sous-dotés, il faut bien le voir, avec des populations qui sont... Regarde en Calédonie, regarde
qui casse aujourd'hui.
10% de salaire inférieur à la métropole, 3 fois plus de chômage qu'en métropole,
Témoignage en direct de la Nouvelle-Calédonie, s'il vous plaît.
C'est pas notre problème.
C'est Fred qui est avec nous, qui habite Nouméa. Bonjour Fred.
C'est pas Fred Hermel.
Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir. Que se passe-t-il précisément à l'heure où on se parle à Nouméa en ce moment alors ?
Pour ce qui nous concerne, nous sommes en vigilance devant l'entrée de notre îlot pour le défendre.
C'est-à-dire que la situation est véritablement une situation insurrectionnelle et de guerre civile ?
Je crois qu'on peut parler de guerre civile, effectivement.
Voilà.
Qui sont les émeutiers ?
On va dire les indépendantistes.
Ça veut dire quoi ? On va dire, monsieur, les indépendantistes. Est-ce que ce sont des personnes, justement, de la ville ou du quartier, ou ce sont des personnes qui sont étrangères, justement, à Nouméa ? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, vous qui êtes sur place ?
Alors, je dirais que les émeutiers sont les ultra-violents de la branche armée du FLNKS.
D'accord.
La revendication n'est pas discutée, mais par contre, le moyen d'y parvenir aboutit à Nouméa à feu et à sang.
Et comment vous faites pour vous protéger? Comment vous faites pour vous protéger?
Ah ben là, on est très organisé. Dans tous les quartiers, les gens se sont mis en comité de défense, armés.
D'accord, vous êtes armés.
Bien sûr, nous sommes armés, bien sûr, pour répondre à des attaques armées également.
Donc des armes, quoi, des fusils, des...
Et ces personnes-là, justement, ils sont armés, comme vous dites, ces assaillants sont armés. D'après vous, et je dis bien d'après vous, d'où proviennent ces armes et quel est le financement de ces armes? Comment ces personnes qui sont d'un mouvement indépendantiste en sont aussi bien équipées?
Probablement parce que les dessins étaient de longue date prévus. Mmh. Et donc, ils étaient très bien organisés. Ils sont encore très bien organisés. Donc, nous avions un petit peu de retard. Sauf que là, maintenant, on a mis les pendules à l'heure.
Mais attendez, vous dites que vous avez comité de défense. Donc, en fait, c'est les habitants eux-mêmes avec des armes qui sont là pour défendre leurs biens. Mais où se trouvent les forces de l'ordre françaises?
Elles sont très occupées en périphérie de Nouméa. Et nous nous occupons de nos biens, Nouméa Sud et autres.
Mais la revendication, ce qui a mis le faux au poudre, c'est vraiment cette histoire de changement de corps électoral. C'est ça qui est la revendication principale, Fred?
Oui. Mmh. Oui, clairement, oui.
Et est-ce que vous...
Et c'était pas anticipable, ça, parce que, pardon, encore une fois... Est-ce que vous dites sur place, ils se sont organisés, ils s'étaient préparés à piller, à provoquer ces émeutes? Je pense en plus qu'il y a du pillage d'opportunisme aussi, parce que les magasins alimentaires sont pillés, les concessionnaires aussi ont été pillés. Donc là, je vois pas vraiment la cause politique. Mais bon, on voit bien que certains en profitent. Mais tout ça n'était pas anticipable sur place. Quel était le climat avant les émeutes?
On a bien senti la tension monter.
D'accord.
Oui. Allez-y, parce qu'on a un problème d'écho et de décalage avec vous, Fred. Mais donc là, aujourd'hui, vous êtes prêt à l'affrontement, vous, les riverains, les citoyens de Nouméa, quoi.
Et oui, effectivement. On est prêt à l'affrontement, effectivement. On s'est préparé à une éventuelle attaque.
Vous vous sentez protégé par l'État, parce que quand vous me dites que vous êtes en mode milice, devant vos logements et vos habitations, est-ce que vous avez l'impression que les effectifs policiers sont suffisants ou de la gendarmerie? Est-ce que vous vous sentez protégé? Vous avez l'impression que la situation est prise au sérieux?
Bien sûr, on sait très bien que la situation est prise au sérieux, sauf que l'étendue des exactions est tellement grande que ils ont suffisamment à faire en périphérie de Nouméa et nous défendons Nouméa Sud.
Merci Fred d'avoir été quelques instants.
C'est très grave, c'est-à-dire que les habitants s'arment prêts à.
C'est ce qu'on a compris dans ce qui.
Une guerre civile.
Oui, c'est une véritable guerre civile. Ils sont armés, ils sont prêts à la défense. C'est ce qu'il nous a dit. Merci d'avoir été avec nous. On va y revenir, bien sûr, au fil des jours dans les GG, dans les grandes gueules. Je sais que Nina attendait pour passer en direct avec nous, dont la fille vit là-bas. Promis, Nina, si on y revient demain, on vous reprendra au téléphone, mais on voulait donner la priorité à Fred qui habite directement sur place. Bon, quelle heure est-il? Il est 11h15. Il me semble que c'est l'heure de faire tourner la roue multicache, la roue RMC. Mais qu'est-ce que... Apporte-la la roue, Anaïs, enfin.
Regarde.
Voilà.
Elle est magnifique, hop. C'est une vraie roue, on dirait le millionnaire.
Alors, avant de faire tourner la roue, il faut accueillir celui qui va la faire tourner, c'est Raphaël. Bonjour Raphaël.
Mais non. Bonjour, bonjour.
Bonjour Raphaël.
Bah déjà, vous êtes de bonne humeur, vous êtes content d'être avec nous, tant mieux. Raphaël d'Indre-et-Loire. Alors, je vous explique. Vous avez été tiré au sort. Et là, c'est ce que je disais, c'est le petit coup de suspense.
Okay.
C'est-à-dire que on va vous donner tout de suite 3000 euros. D'accord? Vous les avez.
Merci.
Mais vous avez la possibilité de faire tourner la roue. Et si vous faites tourner la roue, ça va de 100 euros jusqu'à 20 000 euros. 20 000 euros, il y en a une, deux, trois, quatre cases à 20 000 euros, quatre cases à 10 000 euros, quatre cases à 5 000 euros
ça
aussi.
Ça va de 100 à 20 000 euros. 100 euros à 20 000 euros.
Est-ce que vous gardez les 3 000 ou alors vous prenez le risque de les perdre
Exactement. Et
de faire tourner la roue? Qu'est-ce que vous faites, Raphaël?
Bon, je vais suivre les conseils de la famille et je vais jouer pour les potentiels 20 000 euros.
Ouais.
Bravo. Ça veut dire on renonce aux 3 000, on est d'accord.
Allez,
hein.
C'est parti. Exactement, on joue le jeu.
Allez, go Anaïs, fais tourner.
Le million, le million.
500 euros.
Non, ça n'a pas fait 3 tours.
Ah, c'est pas validé.
Il faut faire 3 tours.
À 3 tours. Alors, il faut faire 3 tours. Costaud. Vous avez de la chance. Allez, go.
Ouais, il y a 3 tours, les amis. Hein.
Non.
Non, c'est pas validé. Il faut encore.
Non, c'est non, validé. Ça, c'est validé.
Non, il n'y a pas eu les 3 tours.
Vous déconnez.
Ah, bah attends. C'est validé.
Non, mais le juge de paix est là. Hein.
Ah, là, je pense
que c'est ultra validé. Là.
Oh.
10 000 euros. 10 000 euros.
Yes, yes,
bien joué. Bien joué. Vous avez eu raison.
Merci beaucoup.
Merci Anaïs.
Merci Anaïs. Merci à tous.